On avait envie de s'arrêter sur une période hors norme que nous venons de traverser à la fois collectivement et surtout individuellement parce que nous sommes sous cloche depuis près de 2 mois et qu'il est indéniable que ces 55 jours de confinement ont bouleversé nos vies, nos habitudes et notre quotidien. C'est particulièrement vrai sur le plan du numérique et sur nos rapports avec les écrans. Bonjour à vous Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en sécurité numérique, vous êtes en direct avec nous, ça nous fait bien plaisir. On va revenir dans un instant sur les impacts pour les salariés, pour les entreprises, mais j'évoquais les conséquences individuelles. Nous avons surconsommé les réseaux sociaux, les sites internet, les smartphones, les ordinateurs sont devenus nos objets de compagnie préférés pendant ce confinement. Est-ce qu'il va falloir du coup gérer un espèce de déconfinement numérique ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que jusqu'à présent, il y avait des services qui étaient utilisés uniquement à des fins de loisirs, pour accéder à des vidéos, passer commandes. Et là, au fur et à mesure, on a les différentes facettes de notre vie personnelle, professionnelle qui se sont numérisées, dans lorsque l'on va faire justement du télétravail, lorsque on peut même éventuellement continuer à faire des transactions avec son notaire à distance, des choses qui avant étaient un peu de la théorie. Là, on est passé à la pratique, donc ça bouscule. Alors après, maintenant qu'on va revenir à une vie physique, à une vie très humaine, plus humaine, il va falloir préparer effectivement ce déconfinement numérique pour faire le tri en quelque sorte entre ces pratiques et puis également faire en sorte, et vous avez mentionné la sécurité, faire en sorte qu'on n'ait pas fragilisé son équipement informatique à l'occasion de ces connexions à distance.
À vous comprendre, ça va être une forme de désintox, hein, désintoxication parce qu'on a téléchargé plein de choses, des données professionnelles par exemple, sur nos ordinateurs personnels.
Exactement, parce que vous avez vu que cette bascule, elle s'est faite en quelques heures, en quelques jours. Lorsque le jeudi, on annonce à la population que lundi, elle est confinée, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient un discours un peu incantatoire sur la fameuse transformation numérique, mais qui en fait ne la vivaient pas vraiment au quotidien parce que leurs collaborateurs n'avaient pas d'ordinateur, il n'y avait pas prévu de connexion professionnelle à partir du domicile, pas de système de visioconférence, de transfert de fichiers volumineux. Et donc effectivement, chacun a improvisé avec des outils qu'il avait à la maison, la box pour se connecter. Et donc, lorsqu'on va reconnecter des ordinateurs sur le réseau professionnel, il est important de faire le tri, retirer de certaines applications dont on ne connaît pas forcément les usages externes, c'est-à-dire le fait qu'elles captent vos données, qu'elles suivent votre géolocalisation. Et donc, c'est une précaution à prendre avant de se reconnecter sur l'ordinateur du bureau.
Le développement de ce télétravail dans les entreprises, c'est une vraie nouveauté en cette période. Hein. Ça existait un peu, là, d'un coup, c'est devenu une espèce de normes. Est-ce qu'on peut imaginer que ça rentre dans notre culture professionnelle ?
Alors, vous avez raison, c'était un discours ambiant, c'est-à-dire que d'ailleurs en 2017, il y avait ce qu'on a appelé les ordonnances Macron de septembre 2017 qui ont simplifié la procédure de télétravail, mais jusqu'à présent, ça restait 20, 25, 29, je crois qu'en 2019, c'est 29% des salariés à peu près qui pouvaient travailler sur ce mode à distance. Là, vous avez par exemple une grande entreprise comme PSA, donc Peugeot, qui annonce que maintenant, le télétravail va devenir la référence pour toutes les activités qui sont liées, qui ne sont non liées à la production automobile. Donc ça veut dire que 1-2 jours par semaine uniquement au bureau, on est passé à la réalité, alors de manière contrainte, et c'est ce qui fait cette intensification du numérique, cette accélération lorsqu'en 72 heures, il faut basculer dans un mode de confinement, et donc ils sont passés justement dans le monde réel du numérique, et manifestement un certain nombre de salariés apprécient, et les entreprises sont obligées de reconsidérer jusqu'à leur politique immobilière, c'est-à-dire est-ce que je dois continuer à centraliser des bureaux effectivement avec des prix de mètre carré particulièrement élevés. Alors attention, précaution, on parle pour l'instant plutôt d'emploi de cadres, des fonctions justement tertiaires, c'est-à-dire de production intellectuelle. C'est pas encore et certainement pas le télétravail pour tous, de toutes les entreprises, de tous les domaines.
Nicolas Arpagian, je voudrais qu'on prenne un autre exemple, celui des commerçants qui sont à l'arrêt en cette période de crise sanitaire, qui se sont quelque part modernisés. Ils vont peut-être m'en vouloir si j'emploie ce mot, avec le développement des pages Facebook, Instagram, des sites pour augmenter leur visibilité. On a développé les pick and collect. Ça aussi, ça va rester ?
Alors, vous avez raison, c'est que par exemple, jusqu'à présent, lorsqu'on parlait de e-commerce, de commerce électronique, c'était un site internet. Forcément, le problème, c'est qu'un site internet, il faut déjà le créer, le concevoir esthétiquement, techniquement, ensuite il faut le faire référencer. C'est toute une ingénierie qui prend du temps et qui mobilise des ressources. Là, on était dans l'urgence. Et là, donc, ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, un compte Facebook, un Instagram, éventuellement plus limité, un Twitter, qui vont servir de vitrine commerciale. Et puis après, c'est poser la question, bon, une fois que je rentre au contact avec ma clientèle, comment je fais pour livrer mes repas? Alors, jusqu'à présent, le modèle était justement de passer par des prestataires. Alors, on connaît Deliveroo, Uber Eats, il y en a d'autres. Simplement, ces commerçants se sont aperçus que c'était des commissions importantes à payer. Donc, effectivement, c'est plutôt le clic, vous commandez sur Internet et collecte, vous allez chercher dans le restaurant qui a leur préférence parce que ça préserve leur marge. Mais on voit que cette mutation numérique s'est faite de manière extrêmement subie, rapide, avec d'ailleurs le canal des réseaux sociaux, c'est-à-dire, en clair, un site Internet, si on devait parler rapidement, clé en main, puisque c'est simple à utiliser et effectivement directement opérationnel par rapport à un site Internet classique qu'il aurait fallu créer éventuellement avec l'aide d'une agence.
Ce confinement sur le recours au numérique, ça a été l'occasion pour certaines professions d'avancer enfin, de se débarrasser de la paperasse et des lourdeurs. Vous citiez les notaires tout à l'heure. C'est incroyable comme là, comme par magie, se sont adaptés en quelques jours.
Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que les notaires défendaient aussi la signature d'un acte dans l'étude aussi comme étant un précaré de leur métier. C'est-à-dire que par rapport à un certain nombre de fonctions qui ont été bousculées par les instances européennes, il faut le dire, prenez l'exemple des commissaires-priseurs, on leur a au fur et à mesure grignoté leur monopole de la vente aux enchères par justement des sites internet qui proposent ce type de commerce. Effectivement, les notaires défendaient la présence dans l'étude comme étant un élément permettant la prise de décision éclairée, l'expression du consentement. Et puis là, d'ailleurs, pendant le confinement, puisque c'est un décret du 4 avril 2020 qui permet, pour les ventes immobilières, le recours à la visioconférence. La seule chose, c'est que, effectivement, c'est aujourd'hui un peu plus de 40% des offices notariaux qui sont équipés de ce type d'installation. Donc là encore, on ne pourra pas, dès demain, demander à son notaire de faire ce type de transaction. Mais en tout cas, c'est un amplificateur et un accélérateur de cette numérisation.
Nicolas, durant cette période, comment les pirates informatiques, ils ont profité de la crise pour se manifester ?
Alors, ils ont profité dans deux canaux particuliers. Le premier, c'est déjà quand la personne se trouve à domicile. Effectivement, elle est seule, elle peut pas échanger avec un collègue. On l'a dit, elle va utiliser des outils qu'elle va chercher à partir de moteurs de recherche. Elle va jongler avec son ordinateur personnel, éventuellement essayer de se connecter au système du bureau. Elle est donc un peu démunie ou en tout cas plus fragilisée. Donc ça, effectivement, le risque, c'est de voir son ordinateur infecté par des programmes malveillants. La deuxième menace, elle a été notamment sur la recherche d'informations. On a vu des sites qui, par exemple, proposaient soi-disant des attestations gouvernementales, mais qui en fait en profitaient pour collecter, aspirer vos données personnelles. Mmh. On a même vu d'ailleurs en Allemagne des sites qui ont directement démarché des PME en leur disant « donnez-nous vos renseignements économiques et nous allons vous octroyer des aides publiques ». Et en fait, les pirates sont allés à leur place chercher les aides publiques auprès de l'administration. Donc effectivement, on a la quête d'informations. Les gens sont allés sur des sites, ont téléchargé des fichiers ou ont cliqué sur des liens de manière un peu hâtive parce qu'ils cherchaient de l'information sur la santé, sur les conditions juridiques du déconfinement, enfin sur des éléments d'inquiétude et également sur le fait qu'ils ont pris des applications sans se soucier du caractère intrusif de celles-ci. Et donc c'est pour ça que vous parliez de déconfinement numérique, c'est tout à fait la précaution à prendre dans les jours qui viennent.
On l'a bien entendu et bien compris grâce à vous, c'était précieux. Merci à vous Nicolas Arpagian, spécialiste en sécurité numérique, d'avoir été notre invité en direct en ce samedi matin. Merci beaucoup. On va retrouver tout ça, bien sûr, sur notre site rtl.fr.